Vous écoutez, on lit pour vous.
Faut-il éviter de gratter un bobo? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 février 2025 dans la presse. Arrête de te gratter, ça ne guérira jamais. Plusieurs parents ont répété cette phrase à leurs enfants, mais une nouvelle étude montre que gratter un bobo stimule la lutte contre les microbes. 5 questions. Pour tout savoir sur le grattage. Faut-il éviter de gratter un bobo? En général, oui, pour éviter les surinfections et aussi parce que gratter un endroit qui pique sur notre corps procure un soulagement très temporaire, dit Daniel Kaplan de l'Université de Pittsburgh, auteur principal de l'étude de la revue Science dévoilée récemment. Mais si on se gratte trop, on suscite de l'inflammation, ce qu'on veut éviter, note le chercheur. Son étude montre que gratter la peau provoque une boucle dans les systèmes nerveux et immunitaires, ce qui apporte un soulagement temporaire suivi d'autres démangeaisons. Pourquoi l'étude dit-elle que le grattage a des effets antibactériens? Les travaux du Dr Kaplan montrent toutefois que chez la souris, le grattage provoque une réaction du système immunitaire qui combat les pathogènes. Donc, le grattage peut être bénéfique. Les bénéfices du grattage sont limités aux démangeaisons aiguës quand on vient d'avoir une piqûre d'insecte ou alors quand une gale se forme après une égratignure, selon le dermatologue de la Pennsylvanie. Et il faut faire attention de ne pas endommager la peau, donc gratter autour du bobo pour ne pas enlever la gale et pas trop longtemps. Dans le cas de l'urticaire ou de l'eczéma, il s'agit de troubles auto-immunitaires, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque le corps, dit le Dr Kaplan. Il est donc contre-indiqué de se gratter, puisque ça accentue cette réaction immunitaire. Le docteur André Veillette, immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM, trouve l'étude intéressante, mais est moins certain que l'effet antibactérien du grattage observé chez la souris se retrouve chez l'humain. Personnellement, je mettrais plutôt de la crème sur un bobo, dit le docteur Veillette. Elena Netchipourouk, dermatologue à l'Institut de recherche du CUSUM, précise que le froid, comme une crème hydratante réfrigérée, apaise les démangeaisons. S'il y a un lien entre le cerveau et le système immunitaire, est-ce que ça signifie que mon état d'esprit affecte ma santé physique? Fort probablement, selon le docteur Veillette. On a souvent observé que les gens stressés et hyper fatigués attrapent plus facilement le rhume, la grippe, le cancer. On étudie de plus en plus l'interaction entre le cerveau et le système immunitaire. C'est la neuro-immunologie. Donc, diminuer son stress peut améliorer sa santé et ses démangeaisons. Si on veut méditer, on peut raisonnablement penser que ces séances auront des effets physiques en agissant positivement sur notre système immunitaire, dit le docteur Veillette. Fait cocasse. L'étude de Science montre aussi qu'il est tout à fait normal d'avoir envie de se gratter quand on voit d'autres personnes le faire ou en parler. Le grattage, c'est comme les éternuements, c'est contagieux, dit le docteur Veillette. On n'est donc pas fou si on a envie de se gratter quand quelqu'un nous parle de son envie de le faire ou quand on lit cet article. Et il est parfaitement normal d'avoir des crises de grattage. Plus on gratte, plus ça pique. C'est ce que l'étude montre, dit le docteur Veillette. On a tous vécu ça. Moi, ça dure 20 minutes après la douche. Mais l'étude montre aussi le rôle et le pouvoir du cerveau dans l'apaisement de la démangeaison, selon le médecin de l'IRCM. En d'autres mots, les parents qui disent à leur enfant « Arrête d'y penser, ça va arrêter de te piquer », ils ont bien raison. Est-ce que ça signifie que les grattous que je donne à mes enfants sont bénéfiques? Faire un grattou à son enfant pour l'aider à s'endormir fait appel à des mécanismes biologiques bien ancrés dans l'évolution, dit le docteur Kaplan. Le plaisir, associé au grattage, dérive de l'effet antibactérien que nous montrons et aussi probablement de sa fonction d'enlever les acariens de notre peau, dit le chercheur de Pittsburgh. Faire un gratou à son enfant peut avoir autant d'effets positifs que la méditation ou qu'une interaction sociale chaleureuse, selon lui. Comment les recherches sur le grattage peuvent-elles m'aider? Elles peuvent donner de l'espoir à ceux qui souffrent d'une foule de maladies auto-immunes, selon le Dr Kaplan. Déjà, des compagnies pharmaceutiques testent des médicaments qui agissent sur certaines des cellules du système immunitaire pour traiter l'eczéma. La docteure Netshi Puruk confirme que la démonstration des différents neurones impliqués dans les démangeaisons et l'inflammation du grattage va aider à trouver de nouveaux médicaments pour les maladies avec démangeaisons. Et on peut penser qu'on pourrait viser des cellules dans le cerveau impliquées dans la neuro-immunologie pour des maladies gastro-intestinales comme la maladie de Crohn, dit le docteur Kaplan. Ou alors que des approches comme la méditation peuvent aider. L'auteur de l'étude de science prévient toutefois qu'il est important de consulter un médecin si on a des signes d'une maladie. Ne pensez pas que vous pouvez tout régler par vous-même par la méditation sans avoir vérifié s'il y a quelque chose que votre médecin peut faire. C'était « Faut-il éviter de gratter un bobo ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 février 2025 dans La Presse.
Les bienfaits pour la santé de jouer dehors tout l'hiver. Un texte commandité, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse. Le concept norvégien de la friluftsliv invite à embrasser pleinement l'hiver et à profiter du grand air plutôt que de bouder la saison froide. Non seulement des sports d'extérieur tels que le ski, la raquette, le hockey sur glace et le vélo à pneus surdimensionnés offrent l'occasion d'admirer la nature enneigée, mais ils procurent aussi une multitude de bienfaits pour la santé. En voici quelques-uns. Développer l'endurance. Il est courant pour les athlètes d'avoir recours aux bains glacés lors de l'entraînement et en préparation à des compétitions. Les sports d'hiver intègrent naturellement un défi similaire qui habitue le corps à mieux régulariser sa température. S'exposer au froid sous les moins 20 degrés Celsius améliorerait l'endurance, permettant de parcourir de plus grandes distances en ski ou en raquette ou de demeurer sur la glace plus longtemps. Renforcer le système immunitaire. Même une activité physique légère améliore la circulation sanguine et aide les anticorps à se mobiliser avec plus d'efficacité. Des études démontrent qu'une intensité modérée combinée au froid en fait encore plus en augmentant la production de globules blancs. De quoi bâtir ses défenses face au rhume et à la grippe. Améliorer la santé mentale. Les sports de plein air chassent les bleus de l'hiver de deux façons. D'abord, le temps passé à l'extérieur accroît l'exposition à la lumière naturelle qui, en quantité suffisante, contribue à régulariser la sérotonine. Ce neurotransmetteur influence le sommeil, l'appétit et les émotions. De plus, l'activité physique libère une saine dose d'endorphines qui améliore l'humeur et atténue le stress, aidant à combattre la détresse psychologique et l'anxiété. Solliciter le système cardiovasculaire. L'air froid et sec, combiné au défi de se mouvoir sur la glace ou dans la neige, exige beaucoup plus d'efforts que la pratique sportive dans un environnement contrôlé. Le cœur doit pomper le sang avec plus d'ardeur pour combler les besoins énergétiques accrus et pour maintenir la température corporelle. Il a été démontré que les sports d'hiver aérobiques, comme le ski et la planche à neige, diminuent la pression sanguine ainsi que le risque de développer des maladies cardiaques. Développer certains muscles. Se déplacer sur des surfaces glacées et enneigées sollicite grandement les muscles des jambes et du tronc qui doivent stabiliser le corps tout entier. Par exemple, les efforts répétés pendant les sports de glisse contribuent à développer les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, les abdominaux et une bonne partie du dos. contribuer à la qualité du sommeil. La fatigue ressentie après des heures à avoir dévalé les pentes ou exploré la nature au grand air favorise souvent un sommeil profond et réparateur. Ce phénomène résulte de l'effet cumulé des endorphines produites, du refroidissement corporel se produisant après l'activité physique et de l'exposition à la lumière du soleil qui synchronise le rythme circadien à la tombée de la nuit. Favoriser la production de vitamine D. Le Canada étant un pays nordique, le manque d'ensoleillement l'hiver nuit à la production naturelle de vitamine D. Santé Canada recommande même à toutes les personnes de 51 ans et plus d'en consommer sous forme de supplément. La pratique de sport de plein air contribue elle aussi à l'apport de cette vitamine essentielle à la santé des os et du système immunitaire. C'était « Les bienfaits pour la santé de jouer dehors tout l'hiver », un texte commandité paru le 25 janvier 2025 dans La Presse.
À Halifax, le piégeage de carbone dans l'océan prend de l'élan. Un texte d'Alexis Riopel paru le 18 janvier 2025 dans Le Devoir. Toutes les deux semaines, Daria Atamanchuk et ses collègues lancent leur petite embarcation sur les eaux du port de Halifax, un havre naturel en retrait de l'océan. Ils naviguent vers un premier emplacement, puis descendent leurs instruments sous la surface de l'eau pour mesurer le pH, l'alcalinité et la concentration de CO2. Le bal se répète à quelques sites, puis l'équipe se précipite au laboratoire pour analyser les échantillons prélevés et télécharger les données des capteurs. Depuis septembre 2023, une expérience de géo-ingénierie se déroule dans la capitale néo-écossaise. Des centaines de tonnes de poudre alcaline ont été déversées dans le port. En se dissolvant dans l'eau de mer, le minéral provoque une réaction en chaîne qui capte du carbone atmosphérique. Plus de 100 tonnes de CO2 ont été séquestrées à l'automne 2023, et avec la deuxième phase des essais amorcée en juillet 2024 et toujours en cours, l'ambition est décuplée. À ma connaissance, c'est la première étude d'alcalinisation artificielle des océans de cette ampleur à être réalisée dans le monde pour une aussi longue période, affirme Mme Atamanchuk, une océanographe de l'Université Dalhousie qui participe au monitorage indépendant de l'expérience réalisée par l'entreprise Planetary Technologies. L'alcalinisation artificielle des océans fait partie des technologies émergentes qui ambitionnent de pomper du CO2 hors de l'atmosphère, alors même que les émissions mondiales ne cessent d'augmenter. Si l'alcalinisation se révèle sécuritaire pour les écosystèmes et abordable économiquement, elle pourrait être appelée à compenser certaines émissions résiduelles difficiles à éliminer. Leçon d'une première campagne. En 2023, Planetary avait relâché 278 tonnes d'un minerai provenant de Chine, de la brucite, dans le port de Halifax. Cette poudre blanche est composée aux deux tiers d'hydroxyde de magnésium, une molécule alcaline qui neutralise l'acide carbonique dans l'eau. Cette eau peut ensuite transformer davantage de CO2 atmosphérique en ions de carbonate. Mais pour cela, il faut que l'eau traitée ait le temps de réagir avec l'air à la surface avant de plonger vers les profondeurs. Entre en scène les mesures de Mme Atamanchuk. Combinées au modèle océanographique de sa collègue Kadja Fennell, également à Dalhousie, ces données permettent aux universitaires de confirmer que la réaction chimique fonctionne comme prévu. Environ 40% de la capture du carbone survient dans la baie, le reste au large. Cela conforte les calculs de Planetary qui, pour 2023, revendique la séquestration de 138 tonnes de CO2 après la soustraction des émissions associées à la production et au transport de la poudre alcaline. Ces résultats surpassent nos attentes, affirme Will Burt, chef de la science océanique chez Planetary. Au chapitre des leçons, la campagne 2023 aura révélé que la brucite n'est pas la matière première idéale, indique-t-il. Sa poudre ne se dissout pas assez vite, ce qui rend l'alcalinité plus difficile à mesurer. Pour la campagne actuelle, commencée en juillet 2024, l'entreprise néo-écossaise a opté pour une autre source d'oxyde de magnésium, sous-produit d'une usine de magnésium en Espagne. Durant 3 semaines, en décembre, l'entreprise a procédé pour la première fois à un essai en continu, à raison de 24 heures par jour. Cela lui a permis de vérifier si un tel dosage occasionne une accumulation d'alcalinité dans la baie. Au point d'injection, Planetary dissout jusqu'à 210 mg de poudre par litre. L'entreprise vérifie que certaines variables environnementales, comme la présence de métaux traces et l'opacité de l'eau, demeurent sécuritaires. En ce qui concerne les répercussions sur l'écosystème local, c'est la biologiste Julie Laroche de Dalhousie qui assure une surveillance. À court terme, il ne semble pas y avoir d'effet dramatique pour la biologie, mais à long terme, la question est encore ouverte, dit cette spécialiste des micro-organismes marins. L'analyse de Mme Laroche est fondée sur les méthodes de l'ADN environnemental qui consiste à prélever des échantillons d'eau, à les filtrer finement, puis à éplucher le matériel génétique du résidu. Cela la renseigne sur la diversité des organismes en présence. Grâce à un décompte des cellules, elle peut aussi évaluer leur abondance. Jusqu'à présent, aucun effet notable ne transparaît, ni dans le panache d'alcalinité, ni ailleurs dans la baie. Mais l'examen des données n'est pas encore achevé. Il y a 2 ans, la communauté scientifique en savait beaucoup moins au sujet de la sûreté de l'alcalinisation, dit M. Burt. Les choses ont changé. Chaque semaine ou presque, une étude est publiée. En tant que responsable de la sûreté du procédé chez Planetary, ça m'aide à dormir sur mes 2 oreilles. Vaincre le scepticisme. D'ici quelques semaines, la campagne 2024-2025 devrait passer la barre des 1000 tonnes de CO2 séquestrées, selon M. Burt. En novembre dernier, Planetary devenait la première entreprise dans le monde à livrer des crédits carbone basés sur l'alcalinisation artificielle des océans, c'est-à-dire à effectivement séquestrer le carbone promis. Les entreprises technologiques Shopify et Stripe en étaient les acheteurs. Planetary vend actuellement ses crédits à environ 1 000 $ la tonne, mais espère pouvoir offrir un meilleur prix bientôt. La société démarre un projet en Virginie, dans la baie de Chesapeake, qui devrait se développer plus rapidement que celui d'Halifax grâce à l'expérience acquise. Elle prépare aussi une collaboration avec la Québécoise Exterra de Val-des-Sources qui lui acheminera de l'oxyde de magnésium extrait de résidus miniers en vue d'une dissolution en Nouvelle-Écosse. À l'Université Dalhousie, on compte bien poursuivre le monitorage et la surveillance du projet haligonien. Chaque semaine, une 20aine de personnes, chercheurs, techniciens et étudiants, discutent de leurs observations. Daria Atamanchuk estime que la recherche avance bien. Certaines questions surgissent, mais rien de rédhibitoire qui nous pousserait à tout arrêter, dit la scientifique d'origine ukrainienne. En fait, elle croit que le plus grand défi ne sera pas d'ordre scientifique, mais plutôt social. J'ai le sentiment que la mise en œuvre à grande échelle ne dépendra pas tellement des chercheurs qui montrent que c'est utile ou non, mais plutôt de la perception qu'en a la société, dit Mme Atamanchuk. Pour vaincre le scepticisme, elle insiste, cette technologie ne se substitue pas à la réduction des émissions, mais sert plutôt à éliminer le carbone résiduel qui restera dans le ciel après l'ère des combustibles fossiles. C'était À Halifax, le piégeage de carbone dans l'océan prend de l'élan. Un texte d'Alexis Riopel paru le 18 janvier 2025 dans Le Devoir.
L'amour au-delà des conventions. Une chronique de Nicolas Vandal parue le 30 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Je pousse doucement la porte de chez moi, encore habité par l'excitation de la soirée. L'air frais de la nuit effleure mon corps, emportant une partie du parfum de ce bel inconnu, mais il reste suspendu à mon col. Je sens encore la pression de ses mains sur ma nuque, le goût salé de sa salive sur mes lèvres, la chaleur de son souffle contre ma mâchoire. Ses doigts parcourant mon dos avec une lenteur presque calculée, comme s'il voulait mémoriser chaque courbe. C'était intense, brut, presque animal. Je me déshabille et file sous la douche, laissant l'eau effacer les traces visibles de cette rencontre fugace, mais pas ce qu'elle a éveillé en moi. Quelques minutes plus tard, je me glisse dans le lit, la chaleur de ma peau se mêlant à celle de mon partenaire. Il dort paisiblement, insouciant de ce qui vient de se passer, ou peut-être en devine-t-il les contours. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a ni trahison ni culpabilité, seulement une confiance inébranlable et une connexion sincère. Et pourtant, ce choix dérange. Il brise les repères, défie les normes établies et bouscule les attentes. On le juge sans chercher à comprendre, car il remet en question ce que beaucoup considèrent comme une vérité immuable sur l'amour. On attend d'un couple qu'il se loge dans un seul corps, qu'il se limite à une seule histoire. Ceux qui dérogent à cette trajectoire sont souvent perçus avec suspicion, comme s'ils étaient dans l'erreur. Il y a des regards qui jugent, des questions implicites, des commentaires de travers. Mais pourquoi, me demande-t-on parfois avec insistance, comme si la monogamie était la seule voie légitime? Si tu as besoin d'aller voir ailleurs, c'est que tu ne l'aimes pas assez, comme si le désir envers un autre annulait celui qu'on ressent pour son partenaire. Ces phrases, entendues mille fois, résonnent comme des mantras d'une société qui confond fidélité sexuelle et profondeur des sentiments. Si on prend un instant pour y réfléchir, la monogamie, telle qu'on nous la présente, n'est rien de plus qu'une construction sociale. Une idée imposée comme une évidence, transmise de génération en génération, sans véritable remise en question. Qui a décrété que c'était la seule manière d'aimer? L'histoire, avec ses nombreux exemples de relations partagées, ouvertes ou plurielles, nous montre une autre réalité, celle d'une diversité d'expressions qui précède largement cette idée figée. Il me semble que la fidélité, dans sa forme la plus pure, devrait avant tout s'appuyer sur l'engagement émotionnel et la confiance, bien plus que sur les actes sexuels. C'est là que réside l'essence de notre relation, une promesse de toujours revenir l'un vers l'autre, malgré les explorations vécues ailleurs. Cet engagement, nous seuls avons le pouvoir de le définir, selon nos propres règles. Alors, pour quelle raison cette vision paraît-elle, aux yeux de tant, si étrange, voire provocante, alors qu'elle repose sur des principes de consentement, de respect et de transparence? Sans doute parce que l'idée que notre partenaire puisse tourner son désir vers un autre individu, vivre une intimité ailleurs, ébranle profondément notre ego. C'est la peur d'être remplacé, effacé, éclipsé. Ce vertige d'imaginer qu'un autre pourrait éveiller en lui des sensations que nous n'arrivons pas à lui offrir nous confronte à une réalité troublante, notre propre fragilité. Une crainte que beaucoup choisissent d'éviter, car elle met en lumière ce qui, au fond, nous rend humains. Dans notre relation, ce qui la définit avant tout, c'est une entente solide, celle d'honorer nos instincts et nos fantasmes sans entrave ni culpabilité. Cela signifie les vivre pleinement, les voir se concrétiser et les exprimer dans un respect mutuel. C'est une liberté partagée, une opportunité de mieux se comprendre, forgée dans une communication sincère, parfois difficile, toujours essentielle. Elle ne fragmente pas notre complicité. Au contraire, elle la renforce. Cela nous permet également de nous reconnecter à nous-mêmes, d'accepter nos besoins sans les condamner. Ces instants éphémères me rappellent pourquoi, parmi tous les corps que je pourrais toucher, c'est lui que je choisis de retrouver chaque soir depuis presque 10 ans. Son sourire, qui m'a séduit dès notre premier échange, son esprit vif, sa capacité à me défier intellectuellement et ce calme qu'il dégage même dans les tempêtes. Et puis, il y a ses fesses d'ancien gymnaste, parfaites dans leur forme et leur fermeté, qui m'attirent comme un aimant. Je n'écris pas cela pour faire la morale ni pour convaincre quiconque de suivre cette voie. Je ne prétends pas que le modèle monogame soit moins valable, au contraire. Chaque relation trouve son épanouissement, qu'elle soit exclusive, polyamoureuse ou ouverte, et cela mérite d'être respecté. Ce que je remets en question, c'est cette croyance selon laquelle la fidélité sexuelle serait le seul indicateur d'un amour sincère. C'est là que le bât blesse. Ce dogme est réducteur et surtout déconnecté de la réalité de nombreux couples. Ce soir, allongé dans mon lit, je repense à tout ce que nous vivons ensemble. Chaque geste, chaque souffle devient une promesse silencieuse, une danse infinie entre désir et confiance. La dynamique que nous partageons échappe au carcan traditionnel, et pourtant notre lien reste tout aussi authentique. Il n'est ni moins profond, ni moins vrai. Il est simplement différent. Au fond, l'amour n'a pas un seul visage. Il se manifeste de 1000 façons, autant qu'il y a d'individus, de vécus et de besoins. L'essentiel est d'être fidèle à soi-même, d'embrasser pleinement ce qui nous fait vibrer, ce qui nous épanouit. Si cela signifie bousculer les conventions, alors tant mieux. C'était « L'amour au-delà des conventions », une chronique de Nicolas Vandal, parue le 30 janvier 2025 dans le magazine Fugue.